Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
Le difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. Ainsi parlait l'historien Jules Michelet. Alors que l'on soit passe-classe ou migrant social, on quitterait, paraît-il, les classes populaires pour s'accomplir en self-made man ou self-made woman, grâce au providentiel ascenseur social ou mieux encore, à la chance. En réalité, il n'en est rien. Les transfuges de classe sont plutôt des exceptions à la règle et non pas la norme. Et ce voyage ne va pas sans le sentiment de trahir. Ce sera donc le sujet de cet épisode, mais d'abord les news féministes.
Tout d'abord, on peut dire que l'Église catholique a pris cher ces derniers temps par l'historique rapport Sauvé, d'abord, qui a mis en lumière, encore une fois, comme s'il le fallait encore marteler cette réalité, que les enfants sont victimes d'agressions sexuelles depuis des années, depuis des décennies, par le fait de prêtres ou de laïcs à l'intérieur de l'Église catholique, et que l'Église se tait, que l'Église n'agit pas. Donc c'est un nouveau rapport, un nouveau pavé dans la mare, il y en a eu plusieurs dans le passé. On espère que celui-ci va enfin porter ses fruits. On peut aussi mentionner le fait que les thérapies de conversion ont officiellement été interdites
oui.
en France.
Pas trop tôt.
Ça a été voté à l'Assemblée nationale et c'est pas trop tôt. Ensuite, on peut mentionner, vous avez sans doute entendu parler des Pandora Papers, donc c'est des grandes révélations journalistiques qui ont mis en valeur tout un système de criminalité en col blanc. C'est aussi l'occasion de répéter que cette criminalité-là est souvent le fait des hommes, même si Shakira et Claudia Schiffer ont été épinglées. Elles sont qu'un tout petit parti de cette espèce de gigantesque système de vol. On peut aussi rappeler que ces violences économiques, donc à savoir que les riches se soustraient à l'impôt et donc se soustrait au fait d'aider les autres, vient d'abord en tout cas du fait d'avoir le sentiment de puissance, d'impunité, la jouissance du pouvoir. Donc c'est pour ça que nos amis les hommes sont particulièrement à même de devenir des criminels économiques.
Oui, et sans oublier la déconjugalisation des AAH, donc ces allocations aux adultes handicapés, qui sont toujours ignoré du gouvernement, et ce malgré une importante mobilisation des militants et des militantes en situation de handicap et de leurs alliés. Et maintenant, place au transfuge de classe ou transclasse.
Alors oui, on a choisi ce thème-là avec Clémentine parce qu'on dirait que c'est un peu le thème de la rentrée littéraire. Nos collègues journalistes ont d'ailleurs aimé rassembler les livres dans ce thème. Il y a eu plusieurs dossiers, plusieurs chroniques sur ce sujet-là. Alors là, il semble donc qu'il y ait une attention particulière portée aux trajectoires transclasse, que ce soit des romans, que ce soit des essais. On peut en citer plusieurs et c'est ce qu'on va faire. En tout cas, on peut voir que ces sujets sortent à un moment particulier, un moment où les rapports de classe sont peut-être encore plus mis en valeur par l'actualité, par la crise économique. Donc déjà, on peut citer Édouard Louis, Clémentine.
Oui, donc Édouard Louis qui publie Changer méthode, c'est aux éditions Seuil. Donc c'est l'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule, entre autres, qui écrit depuis ces dernières années, depuis sa position d'auteur nouvellement parisien et reconnu. Et il revient ici sur le processus d'adaptation, sur la manière dont il a quitté sa Picardie natale et son milieu populaire qu'il décrit comme étant violent et homophobe. Donc c'est un récit que l'on connaît déjà. Ici, il raconte comment il a traversé une multitude de mondes. Et justement, dans le journal Le Monde, il dit que cet ouvrage est, selon lui, moins une success story que, pour le citer, le récit d'un échec, celui de quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans un milieu et qui doit partir. Il poursuit. Au fond, j'ai vécu toute la suite de ma vie sur ce même mode de l'échec, arrivant dans des mondes où j'ai cru pouvoir être heureux, m'adapter, mais auxquels je ne correspondais pas. On l'écoute sur France Inter, où il raconte ce passage très matériel et très concret d'un état à un autre, la manière dont il a changé par exemple ses dents, son accent et son corps. Et il parle également de la question de la honte, de l'envie de revanche et de vengeance. Et il a ces mots, les vrais assistés, ce sont les riches.
Je raconte dans Changer méthode comment à un moment donné je me suis totalement soumis à ce que la bourgeoisie attendait de moi, à ce que la bourgeoisie voulait de moi. J'ai complètement transformé mon corps, donc le livre raconte changer les dents, changer la voix, changer l'accent. Quand j'étais adolescent, je me mettais devant un miroir, je m'entraînais à rire d'une manière différente, à parler d'une manière différente. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que d'avoir fait ça m'a permis d'avoir un regard sur le monde social et d'essayer de le critiquer. On parlait tout à l'heure d'enseignement. Moi, ce que j'ai appris de cette trajectoire aussi, c'est à quel point la bourgeoisie et les classes dominantes sont des classes assistées. Vous voyez, on dit toujours des pauvres, c'est des assistés, il y a de l'assistanat. Mais moi, je peux vous dire qu'en ayant vécu des deux côtés du monde, je vois à quel point la bourgeoisie est assistée depuis la naissance.
Alors perso, j'ai trouvé justement que dans ce livre-là, le sujet de la métamorphose est hyper bien amené. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Édouard Louis, son œuvre est vraiment plurielle et on voit un cheminement dans sa pensée entre En finir avec Belle Gueule et celui-ci. On voit aussi que dans ce livre-là, son passage d'une classe à l'autre n'est pas du tout, comme il le dit, comme tu l'as rappelé, n'est pas du tout un portrait flatteur. Mmh. Il montre l'échec, il montre aussi la honte qu'il ressent a posteriori de ce qu'il a pu ressentir à l'époque. Donc on apprend aussi, et ça c'est toujours important de le rappeler, que ce sont des femmes surtout qui lui ont tendu la main, qui l'ont amené à se poser une réflexion, qui l'ont amené à apprendre, qui l'ont amené à se déplacer justement. Il y a un long passage sur sa meilleure amie du lycée, qu'on a trop envie de rencontrer. Mmh. Et aussi, évidemment, on rencontre un certain Didier. Il faut bien rappeler qu'Édouard Louis tire sa littérature transclasse du travail de Didier Héribon, qu'il a rencontré donc à l'université à Amiens. Et il est important de rappeler que Retour à Reims a bouleversé bon nombre de personnes issues des milieux populaires et surtout des personnes gays et lesbiennes. J'en fais partie. D'ailleurs, dans la préface du Poche de Retour à Reims, c'était Édouard Louis qui s'était exprimé en disant que pour lui, ce livre, c'était l'histoire de sa vie. Donc, pour rappel, dans Retour à Reims, le sociologue et philosophe raconte donc qu'il revient dans son milieu d'origine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles avec Édouard Louis. Après la mort de son père, ce qui est intéressant dans cet essai qui est sorti quand même en 2009, donc on est bien loin de la rentrée littéraire 2021, c'est que l'auteur mêle très habilement le jeu au nous. C'est pour ça d'ailleurs que ça parle à tant de personnes. Son parcours transclasse ne doit pas effacer, bien sûr, la violence écrasante qu'ont subi ses parents et qu'ont subi la majorité des personnes des classes dites inférieures. On voit combien de transgressions les transclasses doivent combiner les unes aux autres pour former une vie comme la leur. Ils doivent être à la fois ici et à la fois ailleurs. On voit aussi que Didier Héribon, tout comme Édouard Louis, on peut vraiment parler des deux... de façon mêlée, on voit comme ils doivent se créer gays, se créer intellectuels dans un nouvel espace, et comment souvent cet espace n'est pas suffisant en fait. Par exemple, Didier Héribon raconte qu'il a essayé de bosser au Nouvel Obs à un moment où il se croit construit bien dans ses bottes, et que là il s'est trouvé agressé par le pouvoir des héritiers intellectuels, par cette espèce de tension, de précaré, un jeu dont il n'a pas les codes. C'est exactement ce que vit Édouard Louis à Normale Sup. Quand il arrive dans cette école, il a l'impression qu'il est arrivé quelque part, qu'il va pouvoir enfin être lui-même, mais il se trouve confronté au fait qu'il ne sera jamais lui-même autour de ces personnes qui ont... bien trop d'avance sur lui, en gros. Donc, il semble que ce retour-là, que ce soit le retour que fait Édouard Louis avec son dernier livre, ou que ce soit le retour que fait Didier Héribon quand il retourne sur ses terres, c'est de toute façon un chemin de croix, et un chemin de croix qui implique aussi beaucoup de tendresse vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du milieu dans lequel ils ont grandi. D'ailleurs, Didier Héribon terminait Retour à Reims avec ce petit dialogue entre lui et sa mère. Sa mère lui demande « Et tu veux être prof de quoi ? De philosophie ?» Il répond de sociologie plutôt. Et elle dit, c'est quoi ça? C'est sur la société?
Dialogue parfait. Alors ce texte a déjà été adapté au théâtre plusieurs fois et il sera au cinéma en mars prochain. On en reparlera. En attendant, on écoute la comédienne Irène Jacob en lire un extrait.
Pourquoi, moi qui ai tant éprouvé la honte sociale, la honte du milieu d'où je venais, quand une fois installée à Paris, j'ai connu des gens qui venaient de milieux sociaux si différents du mien, à qui souvent je mentais plus ou moins sur mes origines de classe, ou devant lesquelles je me sentais profondément gênée d'avouer ces origines, pourquoi donc n'ai-je jamais eu l'idée d'aborder ce problème dans un livre ou un article ?
Alors il y a une autre sortie qui a attiré notre attention, et c'est le livre de Adrien Nazelli, du journaliste Adrien Nazelli, « Et tes parents, ils font quoi ?» qui est sorti aux éditions Lattès. Alors on adore déjà ce livre parce qu'il y a une petite épigraphe hyper programmatique au début. On ne change pas, on a toujours un geste qui trahit qui l'on est, un prince, un valet, je lutte pour ne pas chanter. Donc une phrase de Céline Dion.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi.
Le journaliste, qui est lui aussi gay, et ça a son importance, a interrogé donc les enfants et les parents, y compris les siens, qui ont vécu une expérience transclasse. Et c'est vraiment super dans ce livre, parce que la parole des deux, les parents et les enfants, se trouve mêlée. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il commence son livre en racontant qu'il a établi, depuis son arrivée à Paris, une sorte de liste de toutes celles et ceux qui y sont passés, eux aussi et elles aussi, d'un milieu à l'autre. Il trouve ça presque problématique, alors que ça ne l'est pas du tout à mon sens, mais bon, on pourra en discuter. Et donc, dans le lot des anonymes et des célébrités qu'on trouve dans ce livre, il y a Aurélie Filippetti et sa mère, Rokhaya Diallo et sa mère. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de mères et très peu de pères dans ce livre.
Oui, alors dans cet essai très pointu et très touchant, il pointe aussi du doigt le malaise et la mauvaise foi qui entourent en général ces questions et l'utilisation souvent en politique du fameux « je viens du peuple », c'est-à-dire la manière dont les gens parfois réévaluent leur origine à la baisse. L'exemple le plus frappant, c'est quand même Emmanuel Macron qui dit qu'il vient du Nord, tout en oubliant de préciser que ses deux parents sont médecins. Et donc, voilà, souvent les gens dissimulent leur illustre origine ou bien font un faux coming out social. On peut penser par exemple au comédien Kev Adams qui explique qu'il a dû grandir à 5 dans un 90 mètres carrés et qui dit que ça, ce n'est pas rouler sur l'or, alors qu'en fait, il a grandi à Neuilly et que son père travaillait dans l'immobilier et que sa mère était cadre dans la finance. Voilà, encore un exemple parmi tant d'autres. Et donc, dans cet essai, Adrien Nazelli compile les éléments qui constituent cette narration, ce récit de soi, ce récit que la société fait des transfuges de classe, donc ce qu'on appelle en com le storytelling, qui désigne ces transclasses comme étant souvent soupçonnées d'arrivisme. On parle également de mérite individuel et du mythe de la méritocratie. On aura l'occasion d'en reparler dans la suite de cet épisode, qui s'avère être une grosse fake news, puisque ce qu'il explique, c'est que l'exception de la situation de ces transfuges de classe contribue en réalité à maintenir en place la hiérarchie sociale. Et selon l'OCDE, il faudrait 6 générations pour qu'une personne pauvre atteigne un revenu moyen. Et la France, par rapport aux autres pays, est l'un des plus inégalitaires.
Ce qui est chouette aussi à lire, c'est qu'il redonne vraiment de l'importance à la catégorie socio-professionnelle des parents comme facteur déterminant dans la trajectoire des individus.
Parce qu'on n'en parle jamais, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, moi, en tant que journaliste, en lisant des papiers, des portraits de responsables associatifs, de politiques, d'artistes, que parfois, le métier des parents passait à la trappe. Or, en fait, il donne énormément d'informations sur la personne qui est en train de parler, pourquoi elle est là aujourd'hui, pourquoi elle dit ça aujourd'hui.
Par exemple, il cite le cas de Pascaline Bonnet, qu'il a rencontré à la radio, et on voit justement que la profession de ses parents à Pascaline a été déterminante dans son travail. Elle travaillait à la radio parce que ses parents tenaient un bistrot et mettaient la radio toute la journée. Et c'est cette culture-là, c'est cette enfance-là qui lui a donné les outils et qui lui a donné la passion de faire le travail qu'elle fait aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très touchant. Il y a plusieurs témoignages de ce type-là. Il souligne aussi les éléments communs de tous ses parcours. Donc, en premier lieu, l'école de la République avec Force Trompette. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'importance accordée à l'école dans tous les récits qu'on voit dans ce livre et puis dans le récit de beaucoup de personnes qui ont cette trajectoire. Il y a la passion pour la lecture qui parfois vient des parents mais qui souvent vient des individus eux-mêmes ou de personnes, donc des bibliothécaires pour le cas d'Edouard Louis ou des profs. On voit aussi surtout les efforts déployés par les parents, cette espèce d'énergie et ces personnes entêtées à faire que leur enfant ait tous les outils nécessaires pour aller ailleurs alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas les outils, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas les trajectoires, donc ils ne savent pas par exemple ce que c'est qu'une prépa ou ce que c'est qu'une grande école ou qu'un concours, et qu'ils se sentent vite dépassés. Et leurs témoignages sont bouleversants, aussi bouleversants parce qu'ils sont parfois un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'il peut se mêler de la jalousie ou de la tristesse.
Et changer de milieu a tout de même un coût, puisqu'il faut alors vivre avec deux identités qui parfois se combinent mal. Le sacrifice des parents et la méfiance entre les générations est également cité dans le livre. Par exemple, on pense à la mère d'Aurélie Filippetti qui vit mal le fait que sa fille corrige son français devant les autres. Il explique également que l'on peut être classiste avec sa propre famille. Par exemple, quand on essaie de faire regarder à ses parents des films en VO alors que ça ne fait pas du tout partie de leur culture. Et donc, il y a aussi cette idée chez les enfants d'une dette envers les parents, ainsi que d'un coût psychologique lorsque l'on doit se détacher de sa famille, par exemple. Et last but not least, on n'allait pas oublier le livre de notre collègue chroniqueuse dans ce podcast, Kaoutar Archi. Donc c'est Comme nous existons aux éditions Actes Sud. Mais d'abord, on écoute un extrait.
Cette image de ma mère qui, faisant le ménage quotidien, s'enquiert de moi, du bon développement de ma scolarité, est ancrée en moi. Elle dit la foi de ma mère en l'institution, en ce que l'institution faisait de sa fille, en ce qu'elle lui promettait d'avenir. Jamais ma mère ne se demanda, ni ne me demanda, quel serait cet avenir. Elle se satisfaisait de l'idée qu'un avenir, pour moi, existait. C'était l'avenir. Ma mère vivait dans l'illusion de la grandeur, de l'égalité de l'institution scolaire. Ce que disaient les enseignants n'était jamais perçu autrement que comme parole d'évangile.
Donc dans ce nouveau livre, j'espère ne pas le trahir en l'absence de Kaoutar, elle fait un récit qui est assez autobiographique de son enfance dans un quartier populaire et dans un grand ensemble de la banlieue de la ville de S, dans l'est de la France. Elle raconte comment elle est inscrite dans une bonne école primaire, puis dans un collège bourgeois, et décrit tous les efforts déployés par ses parents pour l'inscrire à tout prix donc dans une bonne institution scolaire qu'elle n'aime pas et qui le lui rend bien. Et elle jette rétrospectivement un regard sur la forme de mépris que cela peut induire pour les siens, notamment lorsque ses parents essaient de protéger une fille arabe des garçons arabes. Voilà, il y a un certain nombre de paradoxes ici. En tout cas, elle se fait observatrice de la jeunesse blanche et privilégiée depuis son contexte postcolonial. D'ailleurs, face aux élèves de son lycée, elle écrit cette phrase « La place de ces élèves, je pensais, est faite. Leur place dans le monde existait avant qu'eux-mêmes n'existent. » Voilà, donc c'est un récit qui démonte les mécanismes des violences institutionnelles et qui combine toutes les problématiques de classe, de genre et de race. Évidemment, on vous conseille de le lire.
Et si je peux rajouter quelque chose, la citation que tu as choisie, je pense, est très claire parce qu'elle me fait penser à un autre passage du livre où elle dit à sa mère qu'elle est née au moment où le quartier de S a été construit pour les immigrés. Et donc, vraiment, c'est vrai, la place dans le monde existait avant qu'eux-mêmes et qu'elle-même existe. Il y a aussi un très très beau passage dans ce livre où Kaoutar raconte son premier jour au collège, donc au collège des riches, on peut le dire, et qu'elle doit y aller en bus et elle est avec une camarade, enfin quelqu'un qui deviendra une camarade, puisqu'elles vivent une séance d'humiliation, de remise à leur place par d'autres élèves qui, elles, sont bien campées dans leur position de privilégiée. Mais vraiment, on vous conseille de le lire, c'est une merveille.
Oui, alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces sorties littéraires, je pense qu'on peut interroger aussi ce terme de transfuge de classe ou de transclasse, son origine et son usage. Alors, transfuge de classe ou pas ?
Alors, c'est vrai que très longtemps, on a préféré le terme transfuge de classe, sans doute parce qu'il y a un petit peu de drama là-dedans. Fuge, ça veut dire partir, ça veut dire fuir. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à préférer le terme transclasse ou passe-classe parce que, justement, c'est un peu dénué de passion, dénué de jugement. On passe d'une classe à une autre, ça veut pas forcément dire qu'on trahit quelque chose ou qu'on trahit qui l'on est, pour reprendre Céline Dion. On peut faire un petit point historique et sociologique. Tout à l'heure, on l'a mentionné, hein, la France est quand même une société de classe particulièrement retorse.
Surprise!
D'ailleurs, Chantal Jacquet et Gérard Bras, deux sociologues, avaient sorti La fabrique des transclasses il y a quelques années au PUF. Chantal Jacquet avait forgé le concept de transclasse pour cette raison-là. Elle disait, la définition de ce mot, c'est juste celui qui, ou celle qui passe d'une classe sociale à une autre. Elle déteste aussi la notion d'ascension sociale parce qu'elle répète dans son travail que c'est aussi du jugement, l'ascension sociale. Et elle rappelle aussi que, contrairement aux pays scandinaves, la France, c'est vraiment une nation où les classes sont vraiment séparées par des murs très étanches. Elle rappelle que, d'après les dernières enquêtes statistiques, 7 enfants d'ouvriers sur 10 en France connaîtront le même sort que leurs parents. Et il en va de même pour les fils de cadres ou les chefs d'entreprise. Donc, en gros, il y a pas de lézard. On est mis sur des rails dès notre naissance, ascenseur social ou pas ascenseur social. Et qui dit donc classe sociale dit conscience de classe. Donc qu'est-ce qu'une conscience de classe ? C'est des marqueurs sociaux qui font qu'on sait qu'on appartient au même club, en gros, qu'on joue sur la même cour. C'est les mêmes habitudes de consommation, la même façon de se vêtir, la même santé. On le voit avec les dents d'Edouard Louis, la même culture, le même vocabulaire. Et donc, cela implique forcément une violence de classe, surtout quand les écarts sont trop importants. On peut encore citer Edouard Louis, pardon, mais à un moment, dans le livre, il compare le salon de son père à celui d'un de ses amants qui a un canapé en ours polaire.
What?
Et donc, il rappelle justement la violence que c'est de se rendre compte de cet écart-là. On peut aussi dire qu'il y a du mépris de classe qui peut être intériorisé, comme on le voit dans le livre « Et tes parents, ils font quoi ?» ou dans tous les livres des personnes transclasses. Il y a une honte de voir les marqueurs de la classe sociale sur soi ou sur ses parents. Et on tente de gommer ces marqueurs-là à un moment de sa vie. On peut dire aussi qu'à l'intérieur des classes sociales, il existe des divisions emplies de mépris de classe.
50 nuances de mépris de classe.
Oui. Par exemple, les nouveaux riches, hein, qui sont considérés comme vulgaires par les riches de naissance parce qu'ils ont gardé des habitudes de consommation de leur classe d'origine. Bref, c'est un peu tout ça que porte le terme de transfuge de classe. Et c'est un peu problématique. D'ailleurs, Adrien Nazelli en rappelle la définition de transfuge de classe dans son texte. C'est une personne qui, en temps de guerre d'hostilité, abandonne l'armée de son pays pour passer à l'ennemi. C'est synonyme de déserteur, de traître. Ou c'est une personne qui quitte un parti pour passer dans le parti adverse, qui renie, trahit un groupe, une cause, et par extension, une personne qui change de milieu de situation.
Oui, alors une autre référence qui est fréquemment mobilisée lorsqu'on parle de ces situations-là et de ces trajectoires sociales, évidemment, c'est le sociologue Pierre Bourdieu. D'ailleurs, n'oublions pas que son père était facteur. Et la notion de reproduction sociale dont Karl Marx parlait déjà à l'époque, avec l'idée de l'accumulation de biens qui se fait d'une génération à l'autre. Puis Pierre Bourdieu a étudié la transmission des positions sociales et il explique que la famille est centrale dans ce mécanisme, c'est-à-dire que l'héritage, qu'il soit économique, social, culturel, patronymique, etc., joue un rôle dans ces déterminismes. Et ensuite, évidemment, c'est l'école qui va jouer un autre rôle central en légitimant les groupes dominants et leurs valeurs, tout en utilisant la violence symbolique. Avec cette idée, par exemple, que les meilleurs seraient naturellement doués, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'on est plus ou moins aidé par la vie. Et donc, dans cette logique, se déploie tout un ensemble de stratégies de maintien et d'amélioration de ces positions. Et donc, Bourdieu publie avec Jean-Claude Passeron un livre qui s'appelle « Les héritiers ». Ensuite, il y a « La reproduction ». Et donc, ils vont étudier cette transmission spécifique des parents aux étudiants et aux étudiantes, en parlant donc d'héritiers et d'héritières. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser l'égalité des chances, l'école va, en fait, participer à la reproduction des inégalités sociales et va ensuite légitimer ces inégalités par un discours méritocratique, ce qui est quand même fort de café. Et donc, selon leurs études, en fait, c'est moins le capital économique que le capital culturel qui va surtout conditionner l'accès aux études supérieures. Donc, le capital culturel, c'est toutes les connaissances en matière de culture et la capacité à apprécier les œuvres issues de ce qu'on peut appeler la culture savante, donc le théâtre, la musique classique, la peinture, etc. Et on peut aussi vous recommander le livre de Bernard Lahire, La raison scolaire ainsi que enfance de classe.
Oui, et comme tu viens de le dire, il y a quand même un peu des réserves sur le fait de parler des transclasses ou en tout cas de pointer le doigt sur ces quelques-uns et quelques-unes qui sont passés d'un côté à l'autre côté. Parler sans arrêt des transclasses, ça reste un discours néolibéral et il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi servir la société des classes supérieures. L'exemple de celles et ceux qui sont passés d'une rive à l'autre avec moult difficultés, c'est quand même le récit exploité par les supérieurs pour rappeler comment le monde doit être organisé et surtout qui tient les manettes et qui laisse passer les gens au compte-gouttes. Chantal Jacquet nous dit quelques mots sur cette réserve-là.
De nombreux transclasses, je pense par exemple à des footballeurs ou des acteurs qui, connaissant un succès fulgurant, se voient très riches, sont en même temps dans une situation parfois très difficile, sont méprisés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas de cervelle, ils doivent apprendre d'autres codes, découvrir d'autres manières de voir, savoir se comporter et s'adapter face à chaque situation. Donc il y a une sorte de flexibilité, de fluidité que le transclasse est obligé d'avoir s'il veut pouvoir être compris dans les différents mondes sociaux.
J'ai aussi demandé son avis à l'autrice Anne Pauly, dont le témoignage figure dans le livre d'Adrien Nazelli. Elle aussi émet de grosses réserves sur le principe même de se pencher sur les transfuges de classe. Elle dit « Après, comme je le disais à Adrien, le concept de transfuge de classe sert de levier aux dominants pour remettre tout le monde à sa place d'une certaine façon. Et l'idée, je pense, c'est de s'extraire de ce face-à-face, de trouver une autre position. »
Oui, puis ça nous permet aussi de ne pas évoquer la manière de supprimer tout simplement les classes sociales. Voilà, et justement, c'est là qu'intervient une notion qui est souvent sous-entendue lors de discussions sur ces sujets-là, c'est la méritocratie qui est le bon vieux cheval de bataille de la droite qui exalte traditionnellement l'individu avec beaucoup d'émotion, et justement, qui en parle ces jours-ci ? Emmanuel Macron.
L'objectif, c'est le mérite, le travail.
Alors, Chantal Jacquet, dont tu parlais tout à l'heure, et Gérard Bras le disent bien, toujours dans cet essai sur les transclasses, il faut en finir avec la notion de mérite, puisque c'est une notion qui est héritée du catholicisme et du racisme d'État. Par exemple, pour obtenir la nationalité, il faut avoir bien travaillé ou sauver un enfant d'un balcon enflammé. Voilà. Ce n'est pas disponible pour tout le monde. Et le problème de ce concept de transfuge de classe, c'est que le cas particulier va être érigé en modèle. C'est que donc ça sous-entend qu'on peut être responsable individuellement des trajectoires de ses enfants ou de sa propre trajectoire, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais ce qui est en tout cas utilisé pour servir un discours méritocratique que beaucoup de politiques de droite, et pas qu'elles, ont utilisé pour aller contre les politiques de solidarité, le service public et voilà, définancer un certain nombre de structures associatives, par exemple. Et donc, on peut aussi ajouter à ça qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans une figure qui est souvent très valorisée, c'est la figure du self-made man ou de la self-made woman à l'américaine que l'on reprend chez nous à la sauce. La France a un incroyable talent, donc on peut penser à Rachida Dati ou à Édouard Philippe et à son grand-père docker cégétiste. Son grand-père, hein, donc pas son père, puisque lui n'était pas docker cégétiste, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut citer un livre qui vient de sortir, c'est Mérites de la sociologue Annabelle Alouche aux éditions Anamosa, dans lequel elle écrit « Le mérite est une pratique sociale de l'évaluation, de la comparaison, souvent quantifiée, et du classement perpétuel des individus ». La sociologue insiste aussi sur ce que cette ascension rêvée ou fantasmée de l'échelle sociale par l'intermédiaire de l'école de la République peut faire aux personnes issues de l'immigration ou venues des anciens territoires colonisés, puisqu'en fait, le but de l'institution scolaire n'est pas simplement d'apprendre des savoirs, elle est aussi de conformer les individus. Ensuite, par miracle, il peut y avoir une ascension lorsque les enfants se sont accaparés quelques outils, mais en fait, l'école coloniale ne fait pas partie du passé.
Est-ce que qui veut peut ? Est-ce que qui veut peut ? Alors, très clairement, la première réponse qu'on a tous, je pense, en tête, c'est non. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Ce serait bien dans l'idéal, mais en fait, on sait assez clairement. Il y a tout un ensemble de logiques sociales et institutionnelles, selon notre origine sociale notamment, qui font que même si on essaie très très fort, eh ben, c'est un peu compliqué.
Elle donne d'ailleurs l'exemple des enfants en Guyane, ou en tout cas de la façon dont on a enseigné les valeurs de la République française, donc d'être un bon consommateur et un bon producteur aux jeunes en Guyane, et les conséquences que ça a eues fatales sur ces jeunesses-là. Elle explique aussi un autre point, pour le coup, vraiment passionnant, c'est pourquoi les récits d'ascension sont souvent accompagnés d'émotions et de petits jeux de violon.
Et de trémolo dans la voix.
Elle raconte par exemple qu'un jour, elle s'est rendue dans une grande école d'ingénieurs parisienne qui venait juste d'ouvrir ses portes aux boursiers et boursières. Et elle raconte qu'elle s'était trouvée très émue par les récits de plusieurs étudiants venus de Nîmes ou d'Alès qui avaient été tirés par leur excellence académique. Et elle avait dit « Je sais que ces récits reflètent la lecture très individualisée portée par le mythe de l'ascension sociale par l'école, celui du mérite, celui d'un individu capable de s'extraire de ses origines sociales par la seule force de sa volonté. Elle le sait, mais elle est quand même émue. L'institution et ses agents mettent en œuvre des formes de sollicitation d'émotions attendues lorsque l'on évoque le mérite. L'individu socialisé à l'ordre scolaire est alors invité à s'y conformer, quitte à jouer un peu la comédie, y compris à lui-même, sur ses émotions méritocratiques, la fierté, le stress, le soulagement de la reconnaissance des titres scolaires, etc. »
L'heure est venue désormais de faire un petit point obligatoire, point parisianisme et décentralisation, puisqu'il faut le rappeler, les classes sociales en France se matérialisent aussi par cette dichotomie, voire ce schisme entre la capitale et le reste du monde, c'est-à-dire avec les grandes villes au milieu. Beaucoup de personnes, même lorsqu'elles sont issues des classes moyennes, ont vécu ce qu'on appelle la montée à Paris. D'ailleurs, le terme dit bien l'idée de trajectoire ascensionnelle. C'est presque la montée au paradis de Jésus. Donc, l'ont vécu comme une grande claque, à la façon de Lucien de Rubempré, le héros ou anti-héros de Balzac, ou de Élie et Lila, les deux héroïnes du film Tout ce qui brille, à la façon de toutes celles et ceux qui gomment leurs accents régionaux pour monter à Paris et monter par la même occasion l'échelle sociale, à la manière aussi d'Édouard Louis qui raconte son voyage du village à Amiens, puis d'Amiens à Paris, puis de Paris à New York. Et là aussi se joue quelque chose de l'ordre de la trahison, comme l'ont décrit les auteurs et les autrices qu'on a cités. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler de la Provence au lieu de dire les régions ou simplement chez moi. On va adopter un certain vocabulaire qui va séparer le locuteur ou la locutrice du monde d'il ou elle vient. Par exemple, la maison de campagne. Pour les Parisiens et Parisiennes, je suis à Répu. Ou encore, tu ne connais pas le tofu lacto-fermenté. Voilà, une manière de faire le tri donc.
Exactement, en tout cas de se donner un rôle. Une autre interrogation aussi qu'on peut avoir sur cette question, c'est est-ce que le transfuge de classe existe dans autre sens ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est transfuge de classe quand on a fait un déclassement volontaire ou est-ce que le fait de dégringoler de l'échelle contre sa volonté a les mêmes causes et les mêmes effets que le chemin inverse ? C'est un peu le thème d'un autre sujet à la mode chez les Parisiens bien nés, celui des néo-ruraux ou de la simplicité recherchée, le Marie Kondo de ta vie. Je me pose la question, une personne qui a joui d'une éducation élitiste, qui a été bien nourrie, qui a fait du sport, qui a baigné dans un bain culturel, peut-il ou elle avoir vécu une expérience de transclasse quand elle tombe dans la classe économique inférieure ou qu'elle choisit de s'y retrouver? Est-ce que la simplicité ou le travail manuel, le retour à la terre n'est pas un énième privilège? Je sais pas, Clémentine, aide-moi.
Moi, je suis au bord de ma reconversion en herboristerie, tu sais, donc je peux pas répondre. On vous recommande sinon un podcast qui est vraiment dédié à ce sujet, c'est La Grande Classe. Et on va écouter maintenant le témoignage de Nesrine Slaoui, qui est journaliste à Loopsider, autrice du livre Illégitime, qui est paru chez Fayard, où elle raconte son parcours. Moi, je l'ai entendue dans une interview dans laquelle elle racontait qu'elle avait été à la fois encouragée puis découragée par des professeurs qui ne croyait pas qu'elle pouvait être bonne élève, qu'elle a finalement réussi à intégrer une classe préparatoire à Avignon. Et à cette époque, elle portait un jogging et elle a appris en observant les autres élèves de classe prépa, les marques, la nourriture, etc., par mimétisme. Donc elle a appris leur code. Néanmoins, elle dit qu'elle n'a pas honte de qui elle est et de qui elle était, qu'elle n'a jamais renié son milieu et son quartier d'origine, qu'aujourd'hui, si elle parle vite, c'est qu'elle a intégré le fait qu'elle était encore illégitime et que peut-être personne ne voudrait l'écouter. Alors justement, on l'écoute parler du terme transfuge de classe et nous donner son avis.
Je ne me définis absolument pas comme une transclasse, comme une transfuge. Je n'aime pas ce mot. Et même les sociologues, une partie des sociologues commencent déjà à le contester depuis quelques années. Moi je cite souvent Fabien Truong, qui est sociologue et qui s'est beaucoup penché sur les parcours comme le mien, c'est-à-dire des jeunes issus des milieux populaires et qui a intégré des grandes écoles, que ce soit Sciences Po par exemple pour moi. Et donc, le sociologue Fabien Truong, quand il parle de nos parcours, il utilise l'expression de cheval à bascule. Et c'est plus comme ça que je me sens, c'est-à-dire comme un cheval à bascule entre deux mondes sociaux en permanence, un monde élitiste avec ses propres codes, un monde populaire avec ses propres codes. Le monde élitiste, il est incarné par mon milieu professionnel, par les milieux dans lesquels j'évolue à Paris, et le monde populaire, il est incarné par mes parents, par mes proches, parce que du coup, mes amis sont généralement des personnes qui ont connu les mêmes trajectoires sociales que moi, parce qu'on se reconnaît et puis on s'est rencontrés lors de nos études. Je disais, ce mot de transclasse, de transfuge me dérange parce qu'il y a dedans une impression de trahison, de devoir trahir pour réussir, de devoir changer qui on est pour réussir, entre guillemets. Et même le terme de réussite sociale me gêne en soi parce que ma définition de la réussite, c'était effectivement de faire des grandes écoles, mais c'est pas forcément une vision de réussite pour tout le monde. Chacun fait en fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Mais en tout cas, ce qui me gêne dans le terme de transclasse, de transfuge, c'est cette notion-là de trahison, de je suis passé de l'autre côté de la barrière et c'est irrévocable et je fais partie désormais de la bourgeoisie, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je ne fais pas partie de la bourgeoisie. Chercheuses et des écrivaines qui l'ont très bien écrit et qui m'ont inspiré moi ensuite à écrire mon livre, mais par exemple Kaoutar Archi ou Faïza Guen ou encore Maboula, Souma Ouro, Rokaya Diallo en ont parlé déjà de ça, du fait que en fait, en tant que racisée, en tant que femme racisée, je pense comme l'a montré Maboula justement, Soumaoro, que la notion de transclasse et de transfuge n'a pas de sens, parce qu'on franchit pas la barrière raciale et c'est la plus violente. C'est-à-dire qu'on change de classe sociale, mais on ne change pas de race sociale. Je ne suis pas devenue une femme blanche, je suis encore moins devenue un homme blanc. Donc, dans la sphère dans laquelle j'évolue et dans le monde social, je suis toujours perçue comme une femme maghrébine. C'est toujours mon identité, l'identité à laquelle on me renvoie. Et cette identité-là reste victime de violence. Donc l'ascension sociale est vraiment une illusion totale pour des cas comme les nôtres, des parcours comme les nôtres, parce que c'est vraiment un leurre. On n'a pas changé finalement notre identité et on nous la reproche même, cette identité. Elle est victime de violence, cette identité. Quand on parle par exemple de charges raciales, de micro-agressions dans les sphères dans lesquelles on évolue, parce qu'il n'y a pas que du mépris de classe. Dans les milieux bourgeois, il y a aussi du racisme, il y a aussi du sexisme. Donc, je ne me sens pas transclasse ni transfuge, tout simplement parce que je n'ai pas changé. Mon identité la plus violentée dans la société, c'est celle de femme nord-africaine, de femme considérée comme arabe, perçue comme arabe musulmane, d'autant plus. Donc, cette identité-là n'a pas changé et c'est une identité qui est victime de discrimination. Donc, c'est pour ça que je dis que le fait d'avoir changé de classe sociale pour moi.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur cette question ?
Alors, pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'a toujours beaucoup intéressée, peut-être parce que je ne sais pas trop où me mettre dans cette histoire. Parce que, aussi, je suis dans un milieu extrêmement élitiste, hein, le milieu des journalistes. Bah, c'est quasiment une classe sociale à lui-même, on peut le dire. Je fais partie de celles et ceux qui ne sont pas des enfants de journalistes en étant journaliste. Et je suis passée de Bourneuf-en-Mauges, 700 âmes, à Paris. Et que j'ai ressenti ce truc de rattraper des connaissances pour pouvoir me fondre dans la capitale, pour pouvoir m'intégrer aux conversations, pour pouvoir comprendre aussi où je mettais les pieds. Donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience transclasse, mais mes parents, en fait, ce sont eux les vrais transclasses, et ça, j'en ai vraiment pris conscience avec le livre d'Adrien Azéli. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais forcé mes parents à regarder des films en VO, et que ça, c'est vraiment pas cool, parce que ça fait aussi le jeu d'une sorte de mépris classe. Après, il y a toujours un truc qui m'a vachement heurtée dans les récits que l'on donne des transfuges de classe, et un truc que j'ai pu entendre pour moi aussi, c'est le « il vient de nulle part, on l'a sorti du ruisseau ».
Sympa.
« Elle vient de loin, elle n'était personne ». Je trouve que c'est d'une violence sans nom, en fait, et on n'en parle pas assez de ces claques que les personnes se prennent. Des claques sous couvert de compliments, en plus, c'est ça qui est ouf. Cette annulation de la classe populaire, en fait, elle vient de nulle part, du ruisseau, de loin, alors que la culture, les valeurs de la classe populaire sont hyper riches et qu'on doit, je pense, collectivement travailler sur cette richesse-là et s'en rendre compte et la sonder, je sais pas. Toi, quelle est ton expérience ?
Oui, c'est vrai que c'est des valeurs qu'on pourrait travailler justement à valoriser et à rendre plus visibles. Je ne suis pas concernée directement par cette question-là. Comme toi, j'ai plutôt des ancêtres qui étaient concernés, mais moi, c'est pas le cas. Après, quand j'étais enfant, j'avais bien une conscience de classe en allant chez des camarades, par exemple en comparant la taille de leur appartement avec le mien. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter un lycée parisien bourgeois. Et à l'époque, j'avais pas du tout conscience que c'était plus facile, par exemple, de faire des études quand on était déjà à Paris, à tel point que je n'ai moi-même pas du tout fait de classe préparatoire, ni Sciences Po, ni l'école normale supérieure, simplement parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais personne qui avait fait ça et je ne comprenais pas ce que c'était, à quoi ça servait. Donc moi, j'ai fait une fac comme la plupart des gens. Et en fait, c'est une prof, ma prof de philo du lycée, qui m'a aidée et aiguillée pendant la suite de mes études, qui m'a aidée à écrire sur le cinéma, à avoir une bourse, etc. Mais sinon, de moi-même, je pense que jamais j'aurais même tenté le concours des écoles de journalisme. Ça me paraissait absolument impossible. Je connaissais personne qui faisait ça. Je ne comprenais pas comment il fallait faire. Même si, aujourd'hui, je suis entourée d'amis qui ont fait Sciences Po, Normal Sup, etc. Pour moi, je pense que c'était plutôt une frontière de genre que de classe. Après, je pense aussi que je suis un peu une exception. Donc, ça ne veut pas du tout infirmer la règle de mon milieu par ailleurs. Je tiens à le dire. Voilà, ce n'est pas pour me plaindre.
Toi aussi, donc, tu croyais que Hippocagne et Cagne, c'était des animaux.
Bah, presque. Comme la licorne.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Alors, dans la pop culture, déjà, depuis la culture classique, les récits affectionnent ce qu'on appelle les success stories ascensionnelles.
On peut citer Stendhal, hein, c'est pas tous les jours qu'on cite Stendhal, qui déjà analysait ces trajectoires-là. Il disait, dans Souvenir d'égotisme, La société étant divisée par tranches comme un bambou, la grande affaire d'un homme est de monter la classe supérieure à la sienne, et tout l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter. Je trouve ça très clair.
Quelle belle métaphore, merci Anne-Laure. Évidemment, l'archétype et le repoussoir qui est encore souvent employé aujourd'hui, c'est Rastignac, donc découvert dans Le Père Goriot et dans d'autres romans de la comédie humaine de Balzac. C'est donc le parvenu, le traître social par excellence, ce jeune étudiant venu d'Angoulême qui va faire son droit à Paris et tenter difficilement de s'élever dans la bonne société. C'est aussi un personnage qui a été réhabilité récemment par Édouard Louis, qui rappelle que c'est le seul à être sympa avec le vieux père Goriot. On peut aussi citer Annie Ernaux, puisqu'on l'aime tant, Annie Ernaux, l'autrice, qui est née donc à Yvetot, en Normandie, qui a décrit dans ses livres le parcours de ses parents ouvriers qui ont ensuite ouvert un café-épicerie. On peut citer par exemple La Place ou La Honte. Et il y a dans son œuvre cette idée de trahison de la fille par rapport à ses parents. Il faut savoir qu'Annie Ernaux elle-même a découvert Bourdieu et qu'elle a ensuite mobilisé ses concepts d'habitus, d'inconscient de classe, de valeur de classe. Par exemple, on voit que dans la valorisation de l'école pour ses parents, se superposent à la fois des visions populaires et des visions bourgeoises, c'est-à-dire que pour eux, étudier est une forme de fainéantise. Il y a chez eux un mépris des privilégiés, mais en même temps la conscience que c'est peut-être là la clé du succès.
On me disait à moi, tu ne comptes rien, tu ne comptes. C'était vraiment, c'est une vie où tout coûtait cher, où on était extrêmement limité.
On peut aussi citer le livre de Nicolas Mathieu qui a reçu le prix Goncourt, Nos enfants après eux.
Alors pour faire vraiment dans la pop culture, on peut aussi se souvenir de Downton Abbey, hein, qui était quand même une super série, et du personnage de Tom Branson, chauffeur gauchiste, qui fait son chemin jusqu'au bras de Lady Sibyl et qui devient co-gestionnaire.
À la sueur de sa sexitude.
À la sueur de sa sexitude, et elle aussi de sa sexitude, parce que c'était une sacrée bonne femme.
R.I.P.
Branson. I know I shouldn't say it, but I can't keep it in any longer.
I wish you would.
I've told myself you're too far above me, but things are changing. When the war is over, the world won't be the same place as it was when it started. And I'll make something of myself, I promise.
I know you will.
Then bet on me. And if your family cast you off, it won't be forever. They'll come around. And until they do, I promise to devote every waking minute to your happiness.
Et qui devient co-gestionnaire du domaine. La série traite bien d'ailleurs dans tout son cours du délitement de l'aristocratie anglaise et de son ouverture forcée sur le monde. Et ce personnage-là de Tom Branson, comme celui de Lady Edith qui veut travailler alors qu'elle est noble et qu'elle n'est pas censée travailler, ces deux personnages symbolisent bien la révolution qui a eu lieu au début du XXe siècle et jusqu'aux années 50.
Oui. Il y a un naufrage aussi qu'on ne peut ignorer.
Jamais, on ne peut jamais l'oublier. Et vous pourrez en lire un chapitre dans le livre Quoi de meuf qui sortira bientôt. C'est Jack, il ne faut pas oublier Jack dans Titanic. Ce film, c'est un peu justement le récit de deux trajectoires opposées. La trajectoire ascensionnelle, dite ascensionnelle de Jack, qui fait son chemin jusqu'à la salle à manger de première classe, qui ne veut pas du tout se trahir, justement. Il est fier de qui il est. Il ne change pas sa façon d'être tout en étant la salle de première classe. Même chose pour Rose de Whit Buketer, qui elle aussi descend dans les cales et est fière de qui elle est. Donc voilà, un beau récit tragique de deux trajectoires.
And how is it you have means to travel?
I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker.
Garantie sans mépris de classe.
Et puis, petite mention pour Une nounou d'enfer.
Sans transition.
Sans transition, mais en fait, il y a un rapport, puisque Fran Drescher nous a fait une des plus belles séries, justement, de transfuges de classe. Donc, Une nounou d'enfer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la série, c'est une série des années 90. C'est l'histoire d'une prolote juive du Queens qui entre dans la maison d'un Anglais aristo. Et en entrant dans cette maison en qualité de gouvernante des enfants, elle ne laisse pas du tout sa culture populaire et son accent du Queens hyper populaire à la porte. Au contraire, elle vient et grâce à sa culture, elle mélange les deux mondes. Et justement, c'est un peu ce que Anne Pauly décrit. Elle trouve un nouveau modèle de classe.
Entendu, je vous engage, mais seulement à l'essai.
Oh, merci, monsieur Sheffield. Merci beaucoup, vous ne le regretterez pas.
C'est bizarre, je me posais la question, figurez-vous.
Retour dans les 90s. Et alors, en littérature, il y a évidemment la saga d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, qui est vraiment travaillée, voire hantée par cette question-là. Donc on suit les destins parallèles de deux petites filles élevées dans la banlieue pauvre de Naples. L'une va y rester et même va décider farouchement d'y rester, tandis que l'autre, la narratrice, va s'en extraire, en sortir et devenir écrivaine. Et donc, qu'est-ce qui fait que Lila reste fidèle au prolétariat, tandis que Lenou, poussée par son institutrice et ses professeurs du lycée, va continuer ses études? Je pense que c'est l'un des mystères de cette saga. Voilà, je vous invite à la lire si vous n'avez pas lu.
Ça donne envie.
Les recommandations culturelles
de Croix de Meuf.
Si j'ai le droit, je vais faire une double reco. Donc deux BD qui sont sortis au même moment et qui sont super cool. Donc la première, A Pink Story de Kate Charleworth. Donc la dessinatrice septuagénaire nous offre une incroyable histoire de la visibilité LGBT du monde entier à travers des illuminations qu'elle a eues dans sa vie. On a droit à tout, on peut voir les badges de l'époque, les premières manifs, les personnages de télé, Freddie Mercury, Jeanne d'Arc, le sida.
La totale.
C'est d'une richesse intense et c'est hyper émouvant. Par contre, il faut avoir à peu près deux mois devant soi pour la lire, mais vraiment, je vous la conseille.
Oui, c'est un sacré morceau.
Exactement, c'est sorti chez Casterman. Et aussi, bien sûr, Coming In d'Élodie Font, illustrée par Carole Morel, l'autrice du super podcast du même nom, donc Coming In, qui avait été diffusée sur Arte Radio, nous raconte sa prise de conscience lesbienne et surtout tous les renoncements qu'elle a eus, toutes les victoires qu'elle a ressenties pour pouvoir ouvrir son corps et son cœur aux femmes. Donc bravo à L2, cette BD, vraiment, elle devrait être dans tous les CDI de France et de Navarre. Petit message pour les documentalistes qui nous écoutent. Et toi alors, c'est quoi ton petit coup de cœur ?
Alors moi, c'est une série qui s'appelle Generation. Donc si vous avez déjà vu Euphoria et la dernière saison de Sex Education, je pense que c'est à peu près la meilleure série queer pour ados en ce moment. Elle est produite par Lena Dunham, la créatrice de Girls. Elle est diffusée sur Canal+. Et c'est une série qui est écrite par un père et sa fille de 16 ans, ce qui est quand même pas banal, queer tous les deux. Donc ça sent le vécu, c'est aussi touchant qu'horripilant. Et ça commence par une scène d'accouchement d'une ado dans les toilettes d'un centre commercial.
I'm Ariana, and my fun fact is my parents are gay. They're thinking of bringing a third into their relationship.
Je ne vous en dis pas plus, voilà. Alors c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode, nous laisser des messages sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être référencés. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera de l'exposition Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou. Merci, salut Anne-Laure.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste Anne-Laure Pinault,
montage et mixage Laurie Galligani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meilleur-Mailleux, réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.